Salut, c'est la mère au panier, nous sommes Marie et Clément. Chaque semaine, on vous parlera d'élevage, de bonne bouffe, de philosophie, de poésie. On passera des idées reçues à la moulinette, tout en s'égratignant au passage. Bref, on va vous mettre la mère au panier.
Let me take you on a little trip, my supersonic ship. At your disposal if you feel so inclined. Well, alright.
Salut à tous. Cette semaine, dans La Mère au Panier, on a décidé de se la jouer un peu Jean-Claude Amezen et de vous lire un petit extrait du livre Révolution animale, le génie des animaux. Il nous a paru intéressant de partager avec vous cet extrait du docteur Donald Broom, professeur au Centre pour le bien-être animal et d'anthropozoologie, service de médecine vétérinaire de l'Université de Cambridge.
Il revient sur un article du gouvernement britannique de la commission Bramble qui soulignait déjà en 1965, à propos d'une étude approfondie d'éthologie, qu'il était important de comprendre le comportement des animaux et les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Cela a conduit aux cinq libertés du rapport Campbell. Tout d'abord, être préservé de la faim, de la soif et de la malnutrition, de la peur et de la détresse, de l'inconfort physique et thermique, de la douleur des blessures et des maladies, et enfin, être libre d'exprimer des modes normaux de comportement. Parmi les grandes évolutions qu'a connues cette science du bien-être animal, on peut noter en particulier le raffinement des mesures et des indicateurs dont peuvent se servir les vétérinaires pour le définir. Ces indicateurs ont été développés par de nombreux scientifiques, parmi lesquels ceux impliqués dans les projets européens sur les Wayfair Quality and Animal Welfare Indicators. Le bien-être peut donc être évalué à partir de diverses études comportementales, physiologiques, cliniques et neurologiques. Afin de développer ces normes et envisager les besoins d'une espèce, encore faut-il connaître ses compétences. Les aptitudes cognitives des animaux non humains dépendent de la qualité de leur fonctionnement cérébral, qui n'est pas toujours lié à la taille du cerveau.
Ces faits sont mal connus et on suppose souvent à tort que les petits animaux, les animaux à petit cerveau ou à sang froid, ainsi que ceux dont les structures cérébrales sont différentes de celles des humains, n'ont pas accès à des concepts et à des comportements complexes. Or, les recherches récentes ont bien montré qu'un large éventail d'animaux possède des compétences surprenantes. Quelle est l'intelligence des animaux de ferme? Bien des gens croient que les vaches, les moutons et les cochons ont des aptitudes cognitives limitées, mais ceux qui travaillent à leur contact savent bien qu'ils se débrouillent parfaitement bien pour résoudre les problèmes qui sont posés. Par exemple, détruits munis de transpondeurs placés sur leur collier, et commandant un poste d'alimentation, apprennent vite comment le gérer. Quand une truie trouve un collier tombé d'un autre animal, elle le ramasse et obtient ainsi un repas gratuit pendant plusieurs jours avant que l'éleveur ne le remarque. Un éventail complexe de concepts ont d'ailleurs été mis en évidence chez les cochons. Placés dans une pièce, certains d'entre eux devaient par exemple découvrir de la nourriture cachée à l'intérieur. Le lendemain, quand on les y ramenait, ils se rendaient immédiatement à l'endroit où ils avaient découvert de la nourriture la veille. Si un autre cochon regardait, le cochon attendait et ne se dirigeait pas vers la nourriture si cet autre pouvait la lui dérober. En revanche, s'il savait que l'autre ne pouvait la lui voler, il s'en approchait immédiatement. Pour ce faire, ces animaux devaient disposer du concept d'un objet en son absence, du concept d'emplacement et de l'aptitude de prédire que la nourriture pouvait être volée dans l'avenir.
Posons les questions du point de vue de l'animal. Afin de comparer les capacités d'apprentissage de différentes espèces, les spécialistes du comportement ont commencé par soumettre les animaux à des expériences dans des conditions contrôlées. Toutefois, dans ces études comparatives, certains animaux ont montré des difficultés à résoudre un problème, du fait des conditions mêmes de l'expérimentation. Par exemple, le fait de pousser un levier avec un sabot posait problème. Par conséquent, les comparaisons étaient biaisées. Des études menées par Raymond Kilgour a permis de surmonter ce problème grâce à l'utilisation de labyrinthes modifiés pour des animaux de taille et d'espèces différentes. Quand on a mesuré le nombre d'erreurs, on a constaté que les vaches, les moutons, les oies et les cochons réussissaient moins bien que les enfants de 5 ans, mais mieux que les chiens, les chats, les rats et les chevaux et plusieurs autres mammifères et oiseaux. Quand on a comparé la rapidité d'apprentissage au cours de cette étude, on a pu noter que la séquence était très semblable chez tous, mais que les ongulés d'élevage réussissaient aussi bien que les chiens. Au cours d'autres études, des vaches, des moutons, des cochons et des poissons ont également appris à discriminer les autres individus de leurs espèces ou bien des humains.
des cerveaux différents et des compétences bien réelles. Les estimations de la sophistication cérébrale doivent prendre en compte le fonctionnement plutôt que la seule anatomie, car les parties du cerveau ayant des fonctionnements analytiques complexes varient selon les animaux. Si chez certains mammifères, les fonctions analytiques de haut niveau se trouvent dans le cortex cérébral, on note des niveaux comparables dans des aires comme le striatum chez les oiseaux et dans les régions très diverses chez les poissons, les céphalopodes et autres groupes d'animaux. Avec un tout petit cerveau, certaines araignées ont des aptitudes cognitives remarquables, mais la vitesse de traitement durant l'évaluation de situations complexes est chez elles moindre que dans le cerveau des vertébrés. D'un autre côté, la rapidité de la vie et de la prise de décision chez les petits animaux est plus grande que chez de plus gros comme les humains. On a ainsi comparé la rapidité d'évaluation des informations et des réponses chez les humains et de nombreux autres animaux.
Un important corpus de recherche portant sur les perroquets, les chiens, les cochons, le bétail et autres animaux de ferme et de compagnie montre qu'ils ont des aptitudes à la reconnaissance, à la cognition, à l'évaluation des risques, à la conscience cognitive, à la conscience évaluative, aux émotions et aux sentiments, donc qu'ils sont sentients. De même, les travaux menés sur les mammifères et les oiseaux en laboratoire et à l'état sauvage, en particulier les études concernant les oiseaux de la famille des corvidés, témoignent d'aptitudes cognitives et d'une conscience de haut niveau. Un poulet a-t-il le concept d'un objet lorsqu'il n'est pas directement visible ? Giorgio Valortigara et ses collègues ont montré que non seulement les jeunes poulets domestiques se tournent vers des objets cachés derrière des écrans, mais que lorsque deux ou trois objets sont cachés ainsi, ils se dirigent vers l'écran qui en cache le plus. Les animaux de ferme se souviennent-ils d'un symbole visuel ? Il a été démontré que les oies en étaient capables, dans des actions où elles devaient choisir une image plutôt qu'une autre et où elles devaient obtenir de l'eau à la fin de l'expérience.
Se regarder dans un miroir quand on est un cochon. La capacité à apprendre et comprendre ce qui apparaît dans un miroir n'est démontrée que pour que quelques rares espèces, parmi lesquelles les cochons. J'en ai exposé qui étaient âgés de 4 à 6 semaines à un miroir pour la première fois, de telle façon qu'ils puissent voir un bol de nourriture, lequel se trouvait en réalité hors de leur vue, caché derrière une barrière. Ils se sont d'abord rendus derrière le miroir, vers la position apparente du bol. Au terme d'un examen approfondi des lieux, 7 des 8 cochons testés se sont écartés du miroir et ont contourné la barrière pour atteindre le bol de nourriture. Des ventilateurs empêchaient une localisation par l'odeur et les animaux contrôlés, n'ayant pas bénéficié d'apprentissage, étaient placés dans la même situation olfactive. Pour utiliser les informations fournies par un miroir et trouver un bol de nourriture, chaque cochon a dû observer les caractéristiques de son environnement, se les rappeler, déduire les relations entre aspects observés et aspects remémorés, et agir en conséquence.
Ces toutes dernières années, de nombreuses études portant sur la cognition nous ont amené aux conclusions suivantes. Presque aucune aptitude n'est exclusivement humaine. Le meilleur cerveau d'oiseau offre de meilleures aptitudes cognitives que celui de n'importe quel mammifère sauf l'homme. L'apprentissage chez les poissons peut être très complexe. La cognition chez les céphalopodes, les araignées sauteuses, les fourmis et les abeilles est bien plus sophistiquée qu'on le croyait naguère. La communication par symboles est possible pour de nombreux animaux, de sorte que le langage n'est pas exclusivement humain. Les chimpanzés, les singes capucins, les cochons, les éléphants, les dauphins, les perroquets et les pies peuvent se servir d'informations issues d'un miroir. Le concept d'événement futur est à l'évidence présent chez de nombreux animaux de ferme, de compagnie et autres. Certaines études font même état de capacités métacognitives, c'est-à-dire de savoir qu'on sait. L'usage d'outils et autres comportements comparables d'innovations complexes ont été démontrés chez de nombreuses espèces de primates, d'oiseaux et de poissons. Le domaine de l'émotion a longtemps été considéré comme nécessairement séparé de l'activité intellectuelle. On a montré au contraire qu'elle facilitait l'apprentissage et en était une conséquence. Les travaux de Hagen et de Broom indiquent que le bétail jeune pourra avoir conscience de ses actions et de son fonctionnement. Des génisses ont été placées dans un enclos dont le portail pouvait s'ouvrir en pressant un panneau avec le mufle, ce qui donnait accès à de la nourriture située à 15 mètres de là. Elles ont appris à le faire et durant leur période d'apprentissage, elles ont manifesté une excitation se traduisant par une évaluation de leur rythme cardiaque, des sauts et des galops. Cet effet eureka n'a pas été observé chez les animaux contrôlés qui avaient seulement accès à la récompense, ni chez les génisses qui avaient déjà appris auparavant à ouvrir le portail.
Les résultats des travaux sur la cognition, les émotions et la conscience de ces animaux accroissent la probabilité qu'ils soient considérés comme des sujets. La question se pose alors, en quoi cela affecte-t-il notre conception de la valeur des individus et du traitement acceptable qu'on doit leur réserver ? L'idée selon laquelle les animaux dont se servent les humains ne devraient pas être traités comme des biens inanimés, mais devraient être protégés des actions pouvant leur causer une souffrance, est très ancienne et très répandue dans la société humaine. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes n'achètent pas certains produits dont ils pensent que les méthodes de production, pour telle ou telle raison, ne sont pas durables ou moralement acceptables. Parmi les facteurs que les consommateurs et citoyens prennent en considération, on trouve le bien-être des animaux utilisés pour la production, l'impact sur l'environnement et les espèces sauvages, le paiement équitable des producteurs, en particulier dans les pays pauvres, l'empreinte carbone de chaque produit, car les facteurs menant au réchauffement global sont désormais considérés. Le pouvoir que possèdent les consommateurs pour contraindre à procéder à des changements là où les pratiques de production étaient contestables a exercé un fort impact pour modifier le droit, les codes déontologiques et la politique de l'industrie alimentaire.
Parmi les exemples de pratiques qui nuisent au bien-être animal dans les élevages et sont déjà illégales ou bannies dans de nombreux pays, citons le confinement des génisses enceintes ou des veaux dans de petits box, le placement en batterie des poules, celui des visons ou des renards dans de minuscules cages stériles et des conditions de transport qui entraînent des souffrances. Parmi les pratiques qui seront vraisemblablement appelées à changer dans un avenir proche, mentionnons l'élevage des poulets à viande à un rythme de croissance qui se traduit par une forte incidence des troubles des pattes et de lésions de la peau, ou encore la sélection de vaches laitières ayant pour conséquence une forte incidence de troubles des pattes, de mastites et des troubles de la reproduction. Les informations scientifiques montrant que des individus sont dotés de sens-science et définissant ce que doivent être les conditions de leur bien-être nous sont donc utiles quand il s'agit de prendre des décisions éthiques, économiques et politiques. Pour une fois, nous n'avons rien de plus à ajouter pour conclure, si ce n'est
bisous les lapins.